un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et je remercie beaucoup Monsieur Rouet de son invitation et je suis émerveillé devant votre nombre. Mes félicitations, non pas que mes propos soient très élevés, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Nous sommes ici au cœur de la Vendée militaire, c'est vrai, les Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire. Nous nous souvenons avec fierté de nos ancêtres qui, il y a 200 ans, ont levé le drapeau du Christ roi du Sacré-Cœur pour lutter pour leur foi et leur roi. Et ces deux principes qui sont attaqués depuis deux siècles en France, principe d'autorité reçue de Dieu, une autorité sacrée, tel était nos rois, et la foi que nous défendons grâce à Monseigneur Lefebvre. S'il n'avait pas été suscité par le bon Dieu, il est probable que nous ne serions pas là ce soir. Et donc nous devons une grande reconnaissance. Et je vous parlerai aujourd'hui de la famille catholique, puisque c'est un sujet qui intéresse spécialement votre province, puisque les Vendéens ont toujours eu de nombreux enfants dans le but d'en faire des élus du bon Dieu. Cette province de Vendée est certainement caractéristique en France pour ses nombreuses familles chrétiennes, ferventes, pleines de foi, et je suis heureux de saluer ce soir toutes les familles, jeunes ou moins jeunes, qui viennent entendre parler de la famille. Notre reconstruction n'est pas seulement liturgique. Il ne s'agit pas seulement de réédifier des églises, des chapelles, des autels. C'était nécessaire, c'était l'essentiel, puisque l'église conciliaire avait commencé en démolissant la messe, en démolissant les autels, en désacralisant. 30 juin 88, ils ont voulu excommunier la tradition, la messe, le sacré, la foi, et ils ont excommunié avec tout cela, eh bien, tous les fidèles qui sont attachés à cette foi de toujours. Mais ce n'est pas seulement cela qu'ils ont excommunié, on peut dire que c'est toutes les institutions catholiques qu'ils ont démolies et qu'ils excommunient. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal Ratzinger qui précise quelles étaient leurs intentions dans son livre « Introduction à la théologie ». C'était nécessaire, nous devons le dire, avec Hans Urs von Balthasar, un théologien suisse, hérétique, qui est mort il y a quelques années. La chose la plus urgente aujourd'hui, c'est la démolition des bastions. Quand on entend ça, n'est-ce pas dans la bouche de quelqu'un qui va devenir cardinal, cardinal Ratzinger, on n'en revient pas. Eh bien, nous disons exactement le contraire avec Monseigneur Lefebvre. Nous autres, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est la reconstruction des bastions du catholicisme. Et d'abord, la famille catholique. Ensuite, l'école catholique. Bien sûr, le catéchisme, les églises, la messe catholique, les lois civiles catholiques, des gouvernants catholiques et finalement un pays catholique, un État catholique. Voilà notre programme. Et vous voyez, donc il va radicalement à l'opposé de ce que veulent les modernistes. Alors nous sommes pour les bastions et notre mission, à la suite de Monseigneur, c'est de reconstruire les bastions, les forteresses de la foi qui ont été démolies par les modernistes, par le Concile. Et nous avons commencé il y a 20 ans par la messe. Dès que la nouvelle messe en 1970 a été imposée, Monseigneur était là. C'est pas qu'il a dit non. Et beaucoup de prêtres fidèles ont dit non et sont morts quelquefois à cause des persécutions. Alors c'était notre premier combat, la messe, le sacerdoce, les séminaires, ensuite nos chapelles, ensuite les prieurés. Mais ça serait tout à fait inutile de construire des chapelles, d'organiser des messes, s'il n'y avait pas de fidèles pour venir assister à la messe. Alors comment y a-t-il des fidèles? Par la famille catholique. Et comment reste-t-il fidèle? Par la famille catholique et l'école catholique. La famille catholique, c'est vraiment le centre de notre combat. Vous savez bien que la famille, c'est la cellule de base de la société. Donc l'église catholique ne peut pas se passer de famille catholique. Notre combat est un tout. Il ne faut pas en prendre et en laisser dire « on vient assister à la messe traditionnelle, du reste peu importe à quel endroit, peu importe ce qu'on nous dit, l'essentiel c'est d'avoir la messe ». Ce n'est pas tout à fait faux et pourtant ça ne suffit pas. Il faut prendre notre reconstitution comme un tout, notre reconstruction. Il faut la messe, il faut la foi et il faut des familles catholiques. Ce n'est pas une chose évidente, très facile. On peut très bien dire, moi je suis avec Monseigneur Lefebvre. Et alors on ira tous les dimanches à la messe, et puis on ne fera rien de plus. Mais ça ne suffit pas. Le bon Dieu attend de nous autre chose. Ça ne suffit pas. Il faut encore agir. Et par conséquent, nous devons reconstituer des familles nombreuses catholiques. C'est l'avenir de la France et l'avenir de l'Église. Leurs chers parents catholiques, chers jeunes gens, si vous n'êtes pas appelés, bien sûr, par le bon Dieu dans la voie consacrée, du sacerdoce ou de la vie religieuse, voilà votre devoir, reconstituer des familles catholiques, familles nombreuses. Et c'est à cela que je veux vous encourager aujourd'hui. Et d'abord, pour ce sujet, nous avons besoin de la lumière du bon Dieu. La lumière, nous la trouverons dans le magistère de l'Église, dans ce que les papes ont dit sur la famille. Ensuite, nous avons besoin de la force, bien sûr, pour réaliser le modèle. Cette force, vous l'avez à la Sainte Messe, au sacrement de pénitence, à tous les sacrements, bien sûr. Et puis enfin, vous avez besoin du zèle pour mettre en œuvre cette grâce du bon Dieu, du dévouement, l'esprit de sacrifice, la charité, l'amour des enfants. Alors nous allons parler de tout cela. Et d'abord, la lumière. La lumière sur la famille catholique. Parce que souvent, on reste ensemble, on est ensemble sans se marier. Mais quand on veut se marier, on ne sait pas trop pourquoi. On fait comme tout le monde, voilà. Il faut bien se marier. Il suffit de faire comme tout le monde. On s'aime bien ensemble, donc on va aller se marier. Voyez. Ou bien on dira, le mariage est nécessaire pour le perfectionnement de la personne humaine. On ne peut pas rester seul toute sa vie. Pour mon perfectionnement personnel, j'ai besoin d'être marié. Bon. C'est la théorie de Vatican II. Le mariage, soi-disant, apporte une augmentation de la dignité de la personne humaine, si bien que les prêtres et les religieux, c'est des minus, c'est rien, parce qu'ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas ce perfectionnement, la personne humaine. C'est une chose complètement fausse. Voyez. On se marie d'abord, si le bon Dieu le veut, pour des enfants. Et puis on se marie pour l'autre, celui qu'on va épouser. On ne se marie pas pour soi, égoïstement. Alors, quand on lit ça dans Vatican II, on est scandalisé. La virginité consacrée, ne pas se marier pour le royaume de Dieu, c'est bien supérieur à l'état du mariage. Saint Paul le dit. Il dit aux parents chrétiens, si vous avez des jeunes filles, si elles ne veulent pas se marier, ne la mariez pas, qu'elles soient consacrées au bon Dieu. Voilà. La vie consacrée est supérieure à la vie du mariage, c'est normal. Mais ce n'est pas la voie de tout le monde. La voie la plus générale, c'est le mariage. Alors vous comprenez bien tous ces jeunes gens qui se marient sans idéal, sans savoir ce que c'est que le mariage, ou même en ayant des idées fausses, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça ne tiendra pas. Ils n'auront pas de famille comme Dieu voudrait. Et c'est ainsi que la famille chrétienne est morte de sa belle mort. Parce que les jeunes gens, quand ils se marient, n'ont plus en vue la famille chrétienne. Voilà. On se marie sans idéal, sans une idée même, sans une idée précise de ce que c'est que le mariage. Et par conséquent, on n'a plus l'intention de vouloir reproduire dans sa vie cet idéal que l'on n'a plus en tête. On se marie avec une fausse idée personnaliste, hein, c'est le personnalisme, perfection de la personne humaine, hein, une idée individualiste, égoïste, on cherche son bien, on cherche son plaisir dans le mariage, voilà, une idée conciliaire du mariage. Au contraire, si l'on regarde le dessein du Créateur qui a créé l'homme, homme et femme, pour le mariage, qu'est-ce qu'il a voulu le bon Dieu quand il a créé Adam et Ève? Quand a-t-il attiré Ève de la côte d'Adam? Qu'il a présenté à Adam, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est dans la Sainte Écriture, nous le savons. Le mariage est une union entre un homme et une femme, un avec une, il n'y en a pas d'autre, et indissoluble, c'est-à-dire pour toute la vie. Donc une union entre un homme et une femme, une seule union, dans le but d'engendrer et d'éduquer des enfants, avec l'aide de la grâce de Dieu, pour en faire des élus du ciel. Pourtant c'est un langage que, évidemment, dans l'Église conciliaire, on n'entend pas, parce qu'ils ont perdu le sens du mariage. Et par conséquent, la famille, c'est la famille nombreuse catholique. Nous aurons des enfants autant que le bon Dieu voudra. Il y en a qui se marient en disant, « Oh, nous marions, mais nous n'aurons pas plus de deux. Pas question d'avoir plus de deux. » C'est le modèle type en France, voilà, homme, femme et deux enfants, puis le chien. Eh bien, un tel mariage, si vraiment la volonté est ferme, les parents disent on n'aura pas plus de deux, et puis c'est tout, un tel mariage n'est même pas valide, c'est même pas un mariage devant Dieu. Parce qu'ils mettent des limites à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas l'intention qu'il faut pour se marier. Notre pays, qui est menacé de mourir d'inanition, parce qu'il n'y aura plus de Français. Comment est-ce qu'elle augmente, la population française, à cause des musulmans? Notre pays est menacé d'être islamisé. Pourquoi? Mais surtout parce que les Français n'ont plus d'enfants. Alors, réagissons. C'est très curieux de voir qu'en France, les seules familles nombreuses, ce sont les musulmans et les catholiques de tradition. La race conciliaire, j'aime bien le dire, n'est-ce pas, est une race en voie de disparition, parce qu'ils n'ont plus d'enfants. Ah, tant mieux. Seulement nous, alors, attention, hein, nous ne sommes pas nombreux, alors. Vous voyez, ce sont ceux qui ont des convictions solides. Les musulmans, ben, qu'est-ce que vous voulez, ils se trompent, très bien, mais ils ont des convictions. Pour Allah, bon, il faut avoir beaucoup d'enfants. Alors, ce serait lamentable que les catholiques, qui ont d'autres convictions, autrement plus sérieuses, la vraie foi, ne comprennent pas ce qui est indispensable pour la patrie et pour l'Église. Je parle à des convaincus, mais enfin, quand même, il faut le dire la vérité. Cette conception qui tue la famille catholique, c'est ce que j'appelle la conception conciliaire du mariage. Vous allez me dire, mais vous accusez le concile, c'est honteux, c'est pas bien. Non, je n'invente rien. Cette conception, elle est inscrite dans le code nouveau du droit canon. La nouvelle loi de l'Église, qui a été instituée par Jean-Paul II en 1983, il dit ceci, je cite le canon numéro 1013, paragraphe 1, dit ceci, le premier but du mariage, ah pardon, ça c'est l'ancien droit canon d'abord, je cite d'abord l'ancien droit canon, puis ensuite je vous citerai le nouveau droit canon. Le but premier du mariage, dit le droit canon traditionnel, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Et le second but du mariage, c'est l'aide mutuelle entre les deux époux et le remède à la concupiscence. Voilà comme les vérités sont bien dites, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fausse honte, c'est bien ça le mariage. Voilà. Alors le concile, lui, est plein de honte. On ne parle plus de remède à la concupiscence. La concupiscence, ça n'existe plus. Le péché originel, il n'y en a plus. Tout est beau, tout est saint. C'est idéalisé. Ben non, soyons réalistes. C'est un saint réalisme de parler d'un remède de la concupiscence. L'aide mutuelle entre les époux, ce n'est pas la perfection de moi, de mon moi. Non, c'est la perfection de l'autre que je vais aider à se sanctifier, que je vais aider bien sûr à vivre d'abord. Voilà. Et puis surtout, le premier but, qui est bien avant, c'est, si Dieu veut, d'avoir des enfants et de les éduquer. Voilà. Le premier but du mariage. Alors ce réalisme catholique est complètement renversé par le nouveau droit canon et par le concile, qui dit ceci, nouveau droit canon numéro 1055, vous pourriez vérifier au besoin, le pacte matrimonial, c'est-à-dire donc le contrat de mariage que les époux contractent devant le prêtre à l'église, n'est-ce pas? Ce pacte matrimonial est, selon sa nature propre, ordonné au bien des époux et à la génération des enfants et à leur éducation. Donc on a renversé, vous avez remarqué, l'ordre des deux buts du mariage. Là, dans le nouveau droit canon, on met d'abord le bien des époux en premier. Le mariage, c'est pour le bien des époux. Et puis en deuxième, on mettra la génération et l'éducation des enfants. Donc on a renversé l'ordre. Eh bien, c'est très grave, parce que le pape Pie XII avait déjà dénoncé, il y a 50 ans, bien avant le concile, cette tendance des théologiens à mettre en premier le perfectionnement des époux. C'est pas ça. Le mariage, c'est d'abord le but de progrès des enfants. Eh oui. Simplement, la propagation du genre humain. Le mariage est institué pour la propagation du genre humain. Et donc, la propagation de l'Église. C'est ça, le premier but. Et la perfection des époux, elle est vraie, mais elle est au service du bien des enfants. Ce n'est pas pour les époux. Ils ne sont pas époux d'abord pour eux, ils sont époux pour leurs enfants. Et leur progrès dans la vie conjugale sera pour le bien des enfants. Tout est soumis, tout est ordonné, voyez, dirigé vers le bien des enfants. Ça, c'est la conception vraiment catholique, traditionnelle du mariage. Sinon, on est dans une conception égoïste, individualiste, personnaliste, et on dit, les enfants c'est secondaire, qu'on n'ait pas d'enfants ou un ou deux, c'est secondaire, c'est une question secondaire, et on est en plein égoïsme. On se mariera pour satisfaire ses passions, et puis c'est tout. Et on n'a plus en vue le bien de l'Église, le bien de la patrie. Alors vous voyez, toutes ces valeurs, toutes ces vérités, que le magistère de l'Église, je vous citais le pape Pie XII, je vous citais le vrai code de droit canon d'autrefois, c'est une autorité, nous devons le tenir. C'est des questions qui de morale chrétienne, qui regarde la foi. Qui regarde la foi? C'est écrit dans l'Écriture sainte. Ce que Dieu a voulu en créant l'homme, homme et femme. Il a dit à Adam et Ève, croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. Il ne leur a pas dit, soyez bien ensemble, réjouissez-vous ensemble et perfectionnez-vous ensemble. Non. Vous voyez? C'est une question de foi, finalement. C'est dans la révélation. Alors voilà la lumière sur la famille. Voilà. Quel est le premier but du mariage? Bon, je vous l'ai dit. Surtout d'un mariage chrétien. Multiplier l'Église, faire de nombreux élus du ciel. Il faudra les mettre au monde, bien sûr, puis ensuite les éduquer, en faire de bons chrétiens, qui puissent se sauver, bien sûr, qui puissent arriver un jour dans l'éternité bienheureuse. Voilà tout le souci principal des parents, les éduquer, bien sûr. Et tous les perfectionnements personnels que les époux, bien sûr, acquièrent dans le mariage est au service des enfants. Ensuite, alors, deuxième partie de mon propos, après la lumière, voyons la force, la grâce nécessaire pour réaliser cet idéal. C'est pas facile, ce n'est pas aisé, bien sûr, d'être marié, de se marier. Ce n'est pas commode, surtout de notre temps. On entend cela. On entend trop, même, peut-être. Les gens nous disent, c'est difficile d'avoir des enfants aujourd'hui. On l'entend. Vous le dites peut-être vous aussi, chers amis. Il y a une part de vérité, c'est vrai, il y a une certaine difficulté. Parce que les familles sont pénalisées par rapport à ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est sûr. Bien. On nous dit, avoir une famille nombreuse, c'est impossible aujourd'hui. On nous dit ça. Est-ce que nous acceptons qu'on nous dise ça? C'est ça. On nous dit, c'est pas réaliste aujourd'hui d'espérer avoir une famille nombreuse. Non. Eh bien non, nous devons rejeter ces slogans. Nous ne devons pas accepter cela. Ce sont des slogans démobilisateurs, qui nous découragent, qui nous font baisser les bras. Ça ne vient pas de Dieu, ces slogans. C'est l'esprit du monde qui dit cela. La famille nombreuse catholique est possible. Elle est même nécessaire. Donc elle doit bien être possible. Et bien sûr, elle demande certainement de l'idéal. Elle demande des idées. Elle demande l'idée chrétienne du mariage. Elle demande qu'on mette les choses en ordre, dans la hiérarchie des valeurs. Voyez. Elle demande que l'on élimine, que l'on élague les choses secondaires quand on est marié. On va mettre de côté ce qui est secondaire. On va mettre le surplus à la poubelle, la télévision d'abord. Ensuite, des vacances coûteuses qui ne servent à rien. On mettra de côté le quartier chic en ville, n'est-ce pas? On pourra se retirer à la campagne, comme ça. Pas besoin d'éblouir les autres. On mettra de côté la Mercedes, éventuellement le petit chien d'appartement. On pourra se passer toutes ces choses-là, des choses secondaires, voyez, pour se donner à l'essentiel, pour donner toutes nos ressources à l'essentiel, c'est-à-dire d'avoir des enfants et d'en faire des chrétiens et de vrais chrétiens. Ça serait parfaitement ridicule que deux jeunes se marient avec des idéaux matérialistes comme avoir le plus d'argent possible, avoir des petits chiens à la maison, etc., pas d'enfants, la télévision, le plaisir. C'est ridicule, c'est contraire à l'idéal chrétien du mariage. Et ça serait vraiment dommage que pour des petites bricoles comme cela, on se prive d'enfants. Moi, quand on roule en ville, quelquefois on voit dans des belles voitures monsieur et madame devant, puis derrière, eh bien, sur la banquette arrière, vous avez le chien. Voilà. Bon, ben c'est dommage. Je n'en dis pas plus, c'est dommage. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Bon, c'est très bien, ça peut arriver. Mais en général, ce n'est pas le cas. Ils ont le chien, parce qu'ils ne veulent pas d'enfants. Le chien, ça remplace l'enfant. Voilà. C'est lamentable que pour un chien, on se prive d'enfants. On va se priver d'avoir des enfants. qui sont la vraie richesse, la seule richesse d'une famille. Alors, évidemment, il faut prendre les moyens. Et je viens à des petites questions plus délicates que vous me permettez d'envisager très ouvertement. Ce qu'on appelle les méthodes de contraception. Bien, vous savez bien que ce n'est pas permis. Par le pape Paul VI et même avant, le pape Pie XII avait écrit des messages en disant que c'est péché grave, péché mortel, que d'utiliser les méthodes contraceptives dans le but de ne pas avoir d'enfants. Donc les époux chrétiens savent bien que la pilule et les autres moyens artificiels, contraceptifs, ne sont pas permis par l'Église et nous font tomber dans le péché mortel. Voilà. Donc on doit d'abord, le minimum, bien sûr, dans la vie conjugale, c'est de rejeter ces moyens artificiels. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi ce qu'on appelle le contrôle des naissances, l'espacement des naissances dit naturel. Là aussi, en principe, l'Église a dit que ce n'est pas permis, sauf quand il y a des raisons graves, des raisons proportionnées. Donc l'Église dit, premièrement, ce n'est pas permis, en principe, mais il peut y avoir des raisons proportionnées pour espacer les naissances d'une manière naturelle, en faisant bien attention, donc, dans l'usage du mariage. On va ainsi espacer les naissances parce qu'il y a des raisons pour agir ainsi. Parce que s'il n'y a pas de raison pour agir ainsi, mes chers parents chrétiens, ayez des enfants, puis c'est tout. Pourquoi espacer les naissances? Pourquoi diminuer volontairement le nombre de vos chers enfants, sans raison? C'est irrationnel. Et le pape Pie XII dit, ceux qui systématiquement espacent les naissances, ou même n'usent du mariage que dans les périodes où il n'y a pas de risque d'avoir d'enfants, ceux-là pêchent, ils font un péché contre le sens même du mariage. Voyez. Ils font un péché contre le sens du mariage. Le mariage qui est fait pour multiplier le genre humain. Et il explique très bien, le pape Pie XII, bien avant Paul VI, et même peut-être je dirais avec plus de précision que Paul VI, voyez, ceux qui se marient, bien sûr, ils peuvent dire, nous n'aurons pas d'enfants et nous n'userons pas du mariage. Nous ferions ce qu'on appelle le mariage joséphin, le mariage de Saint Joseph et de la Sainte Vierge. Ils avaient promis avant de garder la chasteté parfaite, la continence parfaite. C'est permis dans certaines circonstances. C'est permis pour se donner à la contemplation, pour prier. Donc des époux chrétiens peuvent peut-être, suivant le conseil de leur confesseur, dire, eh bien nous n'userons pas du mariage. Nous ne ferons pas l'acte conjugal, nous n'aurons pas d'enfants, mais nous donnerons au bon Dieu ou à d'autres activités. C'est rare. Ça a existé dans l'histoire de l'Église, pas seulement Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie, mais l'empereur Saint Henri, en Allemagne, avec son épouse, l'impératrice Cunégonde, qui n'ont pas eu d'enfants et qui n'en voulaient pas, qui voulaient garder la chasteté parfaite. Vous allez me dire, c'est scandaleux, mais enfin, quand on est roi, on doit avoir des enfants. Oui, mais c'était une royauté élective, voyez. L'empereur, après sa mort, ce n'était pas ses enfants qui montaient sur le trône, c'était un autre. Alors, il n'avait pas d'intérêt spécial à avoir des enfants. Tout cela pour vous montrer que quand on est marié, eh bien on peut dire, très bien, je renonce à user du mariage, ce n'est pas un péché. Mais, attention, dit le pape Pie XII, si vous usez du mariage, à ce moment-là, vous êtes obligé de vouloir avoir au moins quelques enfants. Vous ne pouvez pas dire, nous allons user du mariage, nous allons poser l'acte spécifique du mariage, l'acte conjugal, et toujours et tout le temps, nous éviterons d'avoir des enfants. Si vous faites ça, vous péchez. Voyez. Parce que vous usez du mariage tout en empêchant le but premier du mariage, qui est d'avoir des enfants. C'est un péché, dit Pie XII, contre le sens même du mariage, même si on n'use pas de moyens artificiels. Même la régulation naturelle des naissances peut être un état de péché, s'il n'y a pas de raison, par conséquent, pour espacer les naissances. Voyez. Alors il faut bien savoir cela et comprendre que s'il n'y a pas de raison, eh bien, ayons des enfants, autant que le bon Dieu voudra, autant que la santé le permet. Et le pape Pie XII précise quels sont les motifs qui pourraient permettre justement alors d'espacer la naissance ou même d'éviter totalement une nouvelle naissance. Eh bien, il dit d'abord les motifs de santé, la santé de la maman. Si la santé de la mère est vraiment en danger par une nouvelle naissance, c'est parfaitement raisonnable d'éviter une nouvelle naissance, au moins d'espacer l'année suivante, ou encore le motif financier, si vraiment on est à court d'argent, si on a fait tout ce qu'on peut, si humainement parlant on ne voit pas comment faire, bon, il est raisonnable d'attendre un petit peu pour l'enfant suivant. Et raisons éducatives aussi, ce sont des parents qui ne sont vraiment pas capables d'éduquer les enfants, ils n'ont pas le sens de l'éducation des enfants, bon, ils peuvent être conseillés de ne pas avoir trop d'enfants, ce serait une catastrophe, ils en feraient des malheureux, ils ne pourraient pas en faire des élus du bon Dieu, alors ils vont ne pas avoir trop d'enfants, etc. Il y a ainsi 5 ou 6 motifs qui sont parfaitement légitimes, mais en dehors de cela, chers parents chrétiens, non, ne mettez pas de limite à la fécondité de votre mariage, bien sûr, c'est le bon Dieu qui en mettra. Voilà. Alors, il faut rappeler ces vérités, voyez. Et pour cela, nous avons besoin de la force, du courage, de la grâce du bon Dieu. Bien sûr, ce n'est pas facile d'avoir une famille nombreuse, comme je vous le disais, puisque les familles nombreuses sont pénalisées par l'impôt, etc. Mais c'est quand même possible avec le courage, avec la grâce du bon Dieu. L'esprit de force, dont je parlais ce matin aux enfants à la confirmation, ne pas suivre les modes intellectuels comme fait tout le monde. On suit la mode, voilà. Bien aujourd'hui, on se marie, on a 2 enfants, pas plus. Ne suivez pas cette mode. Ne soyez pas esclaves de la mode, esclaves du respect humain. Mais on se fait montrer dans la rue. On a 6 enfants, 7 enfants, on se fait montrer dans la rue. Regardez, oh là, c'est ridicule à notre époque. Ils ont 6 ou 7 enfants, mais c'est grotesque, c'est un scandale. Les gens se scandalisent de voir des familles nombreuses. Eh bien, scandalisez-les, ça leur fait du bien, ça les fait réfléchir, voyez. Même si vous devez être pointé du doigt, si on doit se moquer de vous, eh bien, et par les fossoyeurs du mariage et de la famille, tant mieux, montrez l'exemple. Alors, laissez-moi parler un petit peu justement de ces fossoyeurs du mariage et de la famille chrétienne. D'abord, les lois civiles, qui sont injustes, bien sûr, qui favorisent l'immoralité et la destruction de la famille. En France, c'est bien connu que les personnes qui vivent en concubinage payent moins d'impôts que s'ils sont mariés. Voilà. Donc il y a un avantage au dévergondage et au péché. Voilà. Alors, eh bien, tant pis. Vous êtes pénalisés, mais il faut quand même supporter ces lois injustes. En Suisse, la nouvelle loi matrimoniale en 1986, qui fut dénoncée par Monseigneur en ce temps-là, met sur le même pied d'égalité le mariage et le concubinage, sous l'expression partnerschaft, ce qui veut dire le partenariat. Voilà, vous êtes simplement partenaire. Vous soyez marié ou pas, c'est pareil devant la loi. Vous êtes partenaire. Voilà. Alors, autrement dit, on réduit le mariage, et surtout le mariage chrétien, voyez, ce contrat sacré, ce sacrement, on le réduit au niveau du simple concubinage, d'un simple partnership, un libre partenariat, une simple société de plaisir à deux. C'est clair, ce n'est pas le mariage, cela. Et nous n'en voulons pas. En Irlande, le pays le plus catholique du monde, au moins il y a quelques années, eh bien, la nouvelle présidente, Mrs. Robinson, et qui est catholique, mais qui a été éduquée dans un collège protestant à Dublin, s'est fait la championne et l'avocate des droits de la contraception, des droits de la femme, la cause féministe, la défense des homosexuels et toutes les abominations. Et actuellement, en Suisse, on diffuse une brochure illustrée avec des photos à l'appui, abominables, dont on ne peut même pas soutenir le regard, avec toutes les déviations et abominations de cette sorte. Voyez. Les perversions de cette sorte. Eh bien, voyez, toutes ces lois et toute cette perversion qui augmente, qui grandit, n'est-ce pas, pour détruire le mariage et la famille chrétienne. Alors nous devons réagir. Nous devons réagir, protester, nous allons protester en Suisse, entendu, mais réagissons dans les faits, tout simplement, en ayant des familles modèles. Voilà, en suivant l'idéal chrétien de la famille chrétienne. Les fossoyeurs, ce n'est pas seulement les lois civiles, ce n'est pas seulement les corrupteurs, ce n'est pas seulement la télévision. Je vous en prie, mettez-la encore une fois dehors, parce que c'est pareil, elle introduit dans votre foyer la corruption. mais c'est aussi l'Église de Vatican II, on peut dire, hein, par l'œcuménisme. Bon, ça peut paraître curieux que je fasse un parallèle entre l'œcuménisme et puis le mariage. Pourtant, il me semble qu'il y a un parallèle très juste. L'œcuménisme, c'est dire que notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, n'a pas épousé seulement l'Église catholique dans son sang. Il n'a pas régénéré seulement l'Église catholique, mais il a épousé aussi les autres sectes, et même toutes les religions. Voyez. Donc l'Église catholique ne serait pas l'épouse unique et immaculée du Christ. Pourtant, c'est saint Paul qui nous le dit. Mais également les sectes protestantes, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme, pourquoi pas, seraient aussi d'une certaine manière eh bien, des épouses du Christ. Blasphème. Voilà. Mais si vous vous souvenez, bien cher fidèle, que le mariage chrétien est le signe sacré, parce que c'est un sacrement, de l'union entre le Christ et son Église, vous comprenez très bien qu'il y a un parallèle très grave. C'est que si l'Église n'est plus l'épouse unique, bien le mariage, c'est plus entre un et une. Le mari pourra en avoir plusieurs, et réciproquement. L'œcuménisme, c'est la destruction du sacrement de mariage. Ben oui. Puisque le sacrement de mariage, vous devez bien le savoir, on vous l'a expliqué, c'est le signe sacré de l'union entre notre Seigneur et son Église. Saint Paul le dit, le Christ a aimé son Église. Et il fait la comparaison avec l'époux qui doit aussi aimer son épouse. Jusqu'à quel point le mari doit-il aimer son épouse? Eh bien, regardez ce qu'a fait notre Seigneur pour son Église. Le Christ a aimé son Église, il s'est livré pour elle, la lavant dans un bain de régénération. Vous comprenez bien, c'est son sang. Hein, pour se la présenter à lui-même comme une épouse sainte et immaculée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors le mari, l'époux chrétien, doit avoir la même conduite envers son épouse. Par la grâce du mariage, eh bien, il doit se dévouer au prix de son sang éventuellement. Voilà. Et réciproquement. Donc on pourrait bien que cette union sacrée, quel mariage, ne pourra pas tenir si on ne croit plus à l'union sacrée entre notre Seigneur et son Église. Il me semble que l'œcuménisme, c'est un des fossoyeurs du mariage chrétien. Également la liberté religieuse, que Mgr Lefebvre a tellement combattu, avec raison, eh bien c'est la même chose, c'est un des fossoyeurs du mariage catholique. Pourquoi? Parce que la liberté religieuse accorde l'existence officielle dans l'État à tous les faux cultes, toutes les fausses religions. Et par conséquent, on ne veut plus d'État catholique, de législation catholique qui protège le mariage. Parce que les musulmans, eux, ils peuvent en avoir jusqu'à 4. Sans problème, les épouses, voyez. Alors, si l'islam a libre cours dans notre pays, eh bien, bientôt, c'est la disparition du mariage chrétien. Alors, chers amis, notre résistance, oui, contre Vatican II, contre les modernistes qui sont à Rome, notre combat contre l'œcuménisme, contre la liberté religieuse, contre l'immoralité, demande de nous de faire quelque chose de positif. Il ne faut pas dire ce sont des méchants, ce sont des hérésies, ce n'est pas suffisant, il faut que nous réagissions positivement, et bien nous dirons, voilà, nous aurons une famille catholique. Nous sommes mariés dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, notre mariage, et bien nous allons fonder un foyer chrétien, une famille nombreuse, si le bon Dieu le permet, voilà. Et puis nous serons aidés par des écoles catholiques, des institutions catholiques, et finalement nous aurons des États catholiques, des lois catholiques. Notre combat n'est pas seulement un combat d'idées, c'est très bien le combat des idées, c'est nécessaire. C'est pas seulement un combat entre l'erreur et la vérité, c'est pas seulement un combat entre l'erreur et la vérité, oui. Mais c'est aussi un engagement personnel de chacun, et spécialement des époux chrétiens, pour fonder des foyers, de vrais foyers catholiques. Alors c'est ce combat que vous devez mener, chers époux chrétiens, qui êtes encore en âge d'avoir des enfants, pour multiplier l'Église. Voilà. Et pour cela, vous avez besoin de la grâce, je vous le disais, mais la grâce en abondance, vous l'avez, cette grâce sanctifiante, par la Sainte Messe, le sang de notre Seigneur, le rosaire, l'idéal spirituel, surnaturel. Vous avez cela en abondance dans la prédication des bons prêtres que vous avez, qui vous redonne cette flamme, qui vous redonne la foi, le sacrement de pénitence, qui est si précieux à notre époque, voyez, pour redonner la grâce, si on n'a jamais eu le malheur de la perdre, et pour l'augmenter. Confessez-vous bien souvent, dans la mesure où les prêtres le peuvent. Un bon chrétien aime se confesser au moins une fois par mois. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, nous sommes faibles et nous avons besoin de la grâce du sacrement. Surtout quand il y a une nombreuse famille à éduquer, à mettre au monde, tout cela demande beaucoup de grâce, beaucoup de force. Alors, profitez de ces sacrements que vous avez, des prêtres que vous avez à votre disposition, et ainsi vous réussirez à rebâtir ces bastions essentiels de la chrétienté que sont les familles catholiques. Donc, je vous ai parlé de l'idéal, la famille chrétienne, les difficultés, bien sûr, et la grâce nécessaire pour vaincre les difficultés, pour fonder de fait des familles nombreuses catholiques. Et puis alors, troisième point de mon propos, eh bien, l'amour des enfants, l'amour que nous devons avoir envers nos enfants, qui est finalement l'esprit du mariage chrétien, la famille chrétienne. Il ne faut pas non plus profaner ou renverser l'amour des parents envers les enfants. Il y a un faux amour des parents vers les enfants. Il y a des parents qui n'aiment pas les enfants comme ils devraient. Ils se figurent d'aimer les enfants parce qu'ils les chérissent, parce qu'ils les cajolent, parce qu'ils les appellent mon petit chéri. Puis, en fait, ils ne les aiment pas véritablement. Ils n'ont pas le véritable amour de leurs enfants. Pourquoi ? Oh, c'est pas compliqué. Vous le savez bien. Ils se contentent de nourrir leurs enfants. Voilà. Leurs enfants sont des gens nourris. Ils ont été nourris, mais pas éduqués. Et c'est la plaie des familles modernistes. Que des gens, des parents qui laissent leurs enfants faire toutes leurs caprices, au nom de la créativité, de la spontanéité, et pas seulement dans les familles, mais à l'école. C'est ça, à l'école, on laisse les enfants faire tout ce qu'ils veulent. On ne va pas leur enseigner quelque chose, non. On va les faire créer, produire de leur intérieur. C'est la créativité et la spontanéité. Bien, ça, c'est la révolution. C'est la révolution dans l'église et dans l'école. Nous sommes tout à fait contre cela. Si des parents laissent leurs caprices à leurs enfants, ils en feront des révolutionnaires, des révoltés, des revendicateurs et des futurs gens pleins d'amertume. C'est cela. Voyez. Et ils se préparent à eux-mêmes une vieillesse bien douloureuse. Au contraire, s'ils ne font pas, ne laissent pas leurs enfants faire leurs caprices, voyez, si avec fermeté et bien sûr tendresse, les deux, la tendresse et la fermeté, ils les dirigent bien, eh bien, ils en font de bons chrétiens. Et eux-mêmes, ils se préparent une vieillesse heureuse. Ils sont respectés par leurs enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que vos chers enfants sont des blessés. Ils sont blessés comme nous autres, par le péché originel. Voyez, là, c'est Rousseau qui inventait le bon sauvage. L'homme qui naît sans tâche pure, et ce serait la société, soi-disant, qui viendrait le faire méchant. Ce serait la société de ses semblables qui rendrait l'homme méchant. Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est le contraire. L'homme naît méchant. L'homme naît détourné de Dieu avec le péché originel. Et c'est l'éducation qui va l'améliorer. Avec le baptême, bien sûr, ensuite l'éducation qui va redresser ce qui était tordu. Voyez. Sinon, eh bien, c'est l'homme qui va devenir méchant parce qu'il l'est déjà par le péché originel. Ou par les traces qui restent du péché originel, même après notre baptême. Alors vos enfants ont besoin de la correction, l'affection et en même temps la correction. Le médicament fortifiant de la correction, vos enfants en ont besoin. Ne les privez pas de cela, sinon vous n'aimez pas véritablement vos enfants. Et puis deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, supprimez de vos maisons les instruments corrupteurs des âmes innocentes de vos enfants. Les parents, ils s'en vont de la maison, les enfants sont de la maison, ils ouvrent la télévision et ils voient n'importe quoi. Il faut supprimer cet instrument. C'est un instrument corrupteur. C'est le lavage de cerveau, intégrale. Alors, jeter la télévision, de remplacer là par le bel petit oratoire familial, télévision en couleur, avec le Sacré-Cœur, la Sainte Vierge. Vous consacrerez votre soirée, au moins une petite demi-heure, à réciter votre chapelet en famille, devant le bel oratoire familial. Voilà comment des chrétiens remplacent la télévision. On supprime que ce qu'on remplace. Voyez. Télévision à la maison, pas de vocation. Dans le même ordre d'idées, attention à la drogue, bien sûr, qu'à tout moment, vous pourrez proposer à vos chers enfants, à la sortie des écoles, je parle en ville, évidemment, dans les stations de chemin de fer, les stations d'autobus, tout ça. Malheureusement, ça existe, même en France. Hein, on passe des cigarettes à la drogue, etc. On propose de la drogue facilement à des enfants. Alors, incitez vos enfants à être très prudents et à vous faire leur confidence sur ces sujets. C'est important que vos enfants ne soient pas victimes de la drogue. Je ne veux pas être trop long, bien sûr. Chers parents, mais une chose très importante, et j'en viens pour finir, ce sont les écoles vraiment catholiques. Faites tous les sacrifices nécessaires pour envoyer vos enfants à de vraies écoles catholiques. Sinon, ils sont en danger dans toutes ces écoles où c'est la perversion des intelligences et des cœurs. Autrefois, c'était un scandale en Vendée, ici, de voir des familles mettre les enfants à l'école publique. C'était un scandale. Les prêtres interdisaient cela aux familles. On se faisait montrer du doigt dans les paroisses. Hein. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. C'est presque le contraire. C'est-à-dire que les écoles, soi-disant libres, hein, conciliaires, sont souvent plus corruptrices que l'école complètement laïque. Bon. Mais même l'école complètement laïque, ne mettez pas vos enfants. Vous avez maintenant des écoles catholiques qui se multiplient grâce à Dieu. Grâce à vous aussi, grâce à l'effort des parents chrétiens qui se réunissent ensemble et qui disent nous allons fonder une école catholique, une école primaire, une école secondaire. Et je félicite bien sûr M. Brouet et tous les parents chrétiens qui sont réunis ici en disant nous allons fonder ici une école catholique pour le centre de la Vendée militaire. Voilà, une école primaire, c'est bien. Mais évidemment, ne dites pas « Oh, c'est très bien, oui, je donnerai un peu d'argent. Monsieur Rouet, je promets, je vous donnerai 100 francs, c'est très bien, bravo. Mais vous comprenez, mes enfants, non, je préfère une école un peu plus chic à Cholet ou à Pouzeau, ou je ne sais où. Enfin, comprenez, le standing, enfin, ne pas mettre quand même, c'est pas trop ce que c'est que cette école-là. On va vous soutenir, mais ce n'est pas pour mes enfants, c'est pas pour moi. » C'est comme ça, souvent, que les parents chrétiens réagissent. C'est pas, j'imagine pas, hein, la situation n'est pas imaginaire, ça existe. À Dijon, par exemple, nous avons un prieuré, une petite école primaire. Eh bien, les enfants qui fréquentent l'école du prieuré, ce ne sont pas les enfants des familles du prieuré. Ils préfèrent mettre leurs enfants dans des écoles chics de la ville. C'est quand même dommage. Voyez. Alors, ces écoles sont pour vous. C'est vous qui allez les construire. Et ce sont vos enfants qui vont être les premiers élèves. Et puis nos écoles, voyez, se multiplient grâce aux chères sœurs dominicaines enseignantes pour les filles, grâce à la fraternité Saint-Pilis. C'est pas seulement en France, c'est partout, dans tous les pays que se multiplient les écoles. En Angleterre, par exemple, vient de se fonder une école primaire en plein cœur de l'Angleterre. Eh bien, c'est une diaspora catholique, et pourtant ils ont fait cet effort, voyez. Les catholiques sont peu nombreux, dispersés dans un pays en majorité protestante. Bien, ils nous montrent un bel exemple de foi. Ils construisent une école pour leurs enfants. Et ils font des centaines de kilomètres éventuellement, toutes les deux, trois semaines. Mais leurs enfants ont une bonne école catholique. Alors il ne faut pas que la Vendée militaire s'en laisse remontrer par nos voisins d'Angleterre, par exemple, ou d'autres. Il faut que nous aussi, nous ayons cette petite école primaire, au centre de la Vendée militaire, bien sûr. Chers parents chrétiens, chers amis, avec l'aide du Saint-Esprit, si vous vous laissez enflammer de zèle pour cet idéal, une famille nombreuse chrétienne et d'écoles catholiques qui marchent la main dans la main avec la famille, alors vos familles seront des sanctuaires du bon Dieu, des sanctuaires de sainteté, où on sent le souffle du Saint-Esprit, on sent une âme dans ces foyers, où le bon Dieu se plaira alors à venir habiter, à venir diriger, surtout si vous avez l'idée de faire un jour cette belle cérémonie de l'intronisation du Sacré-Cœur dans vos foyers. Vous soumettez volontiers toute la vie de famille au Sacré-Cœur l'image ou la statue du Sacré-Cœur trônera dans la salle de séjour, à la place d'honneur, et puis vous confierez tous vos soucis, vous lui ferez toutes les confidences, mais surtout vous lui direz: maintenant, notre Seigneur, c'est vous qui régnez, c'est vous qui êtes le roi de mon foyer, c'est vous qui gouvernez les intelligences, c'est vous qui gouvernez les cœurs. Et alors, le foyer sera un véritable sanctuaire. C'est ça que nous devons faire de nos familles. Pas quelque chose de profane. Entre une famille chrétienne et puis une famille non chrétienne, païenne, c'est le jour et la nuit. On devrait trouver cela. Voyez. Et alors, vous avez la prière en famille. Voilà, premier acte de cette sanctification de vos familles. Reprendre cette sainte tradition, hein, qui est trop abandonnée, la prière en famille. Époux, épouse, même avant la première naissance, eh bien, on décide, dès le jour du mariage, on priera en famille, chaque soir, notre chapelet, et on initiera progressivement les enfants qui vont venir au jour, les uns après les autres, on les initiera à la prière en famille, le chapelet. Chaque enfant donnera le mystère et méditera les mystères du rosaire ensemble, en famille. Et cela, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, c'est un sanctuaire du bon Dieu, une telle famille, où on met d'abord le culte du bon Dieu avant tout, c'est un sanctuaire. Et même s'il y a des petites accros entre époux et épouse, comme ça peut arriver, tout cela s'efface le soir, bien sûr, tout cela est oublié, tout cela est pacifié par la prière en famille, bien sûr. Reprenons cet idéal et ces saintes traditions de nos ancêtres, chers Vendéens catholiques, c'est important, c'est urgent. Et quel idéal exaltant et qui doit devenir une réalité, qui est déjà une réalité dans beaucoup de nos familles, mais qui doit devenir de plus en plus une réalité. Et ainsi, le bon Dieu se plaira à porter des fruits. Voyez, vos familles seront fructueuses, elles porteront des fruits. Vous aurez de saints enfants et vous aurez des vocations. Il y aura des prêtres à nouveau pour la Vendée. Il y aura des religieux et des religieuses. La Vendée qui a tant donné de prêtres, tant d'ordres religieux immenses, des monastères immenses, des centaines et des milliers de religieux et religieuses, eh bien, ça va revivre, voyez, grâce à l'idéal chrétien des catholiques, des vrais catholiques. Alors, c'est cette grâce que nous demandons, et que je demande pour vous tous, bien sûr, ce soir, et vous me demandez ces grâces les uns pour les autres, par la prière à la Sainte Famille, qui est le modèle de toutes les familles chrétiennes. Ils n'ont eu qu'un enfant, la Sainte Vierge, parce que c'était le Fils de Dieu, bien sûr. La fécondité, la virginité de la Vierge Marie a été épuisée en un seul enfant, parce que c'est le bon Dieu lui-même, bien sûr. Nous ne sommes pas comme cela. La fécondité d'une maman n'est pas épuisée par une seule maternité, au contraire. C'est en multipliant les maternités que toute la richesse des deux époux, bien sûr, se manifeste, en mettant au monde tant de caractères différents parmi les enfants. Mais c'est exaltant aussi d'éduquer ces caractères, d'en faire des saints et de futurs élus du bon Dieu. Voilà notre idéal, chers parents, chers amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, c'est toujours une grande joie pour moi d'être parmi vous. Et aujourd'hui, je ne commenterai pas ni l'épître ni l'évangile de ce jour, mais je vous parlerai de cet événement d'il y a une dizaine de jours que nous avons fêté dans beaucoup de nos églises en France, la commémoration de la mort du roi Louis XVI à Paris, le 21 janvier 1793. La signification de cette mort, la condamnation de cette mort par le pape Pie VI et l'expiation qui est due en principe par la France pour ce grave péché. Bien chers fidèles, c'est depuis longtemps, bien avant 1789, que les forces adverses s'étaient conjurées pour renverser la monarchie et avec elle la religion, notre Seigneur. La franc-maçonnerie, qui naît en 1715 à Londres, en Angleterre, peu à peu dévoile ses plans antichrétiens et visant à renverser tous les pouvoirs chrétiens et donc la monarchie catholique, traditionnelle, héréditaire, qui était la forme de régime en France depuis le début. Il s'agissait de détruire cette monarchie chrétienne pour la remplacer par une république non chrétienne, une démocratie sans Dieu. Et ça, c'est un complot. Toutes les forces s'étaient réunies peu à peu, les parlements, donc les grands bourgeois et les grands nobles de la France, oui, même une certaine partie du haut clergé, il faut bien le dire, a participé à cette révolution. Et depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, malgré les avertissements du pape, qui disait « attention à la franc-maçonnerie », mais les rois ne faisaient pas attention à ce que disait le pape. Et bientôt, ce fut même toute la cour à Versailles qui était dans la franc-maçonnerie. Pas le roi, mais presque. Le duc d'Orléans, lui-même, le cousin du roi, était le grand maître de la grande loge de France, le chef des francs-maçons. Cela ne pouvait pas porter de bons fruits, et on va le voir rapidement. Et pourtant, le roi a fait front à cette révolution. Dès le début, il s'est opposé à tous ces plans. Le roi a proposé des réformes. On se figure que Louis XVI était un incapable et un faible, c'est faux. Louis XVI fut courageux, était très capable, il proposa les réformes, que tout le monde paya l'impôt, même les riches. Mais voilà, les riches n'ont pas voulu. Ils se sont révoltés contre Louis XVI et ont rendu la révolution inévitable. Alors Louis XVI va être confronté non seulement à la révolte, la prise de la Bastille, etc., la révolte armée, mais à des lois, les premières lois anti-religieuses, des lois schismatiques qui voulaient séparer l'Église de France du Saint-Siège. Et le roi avait écrit au pape, déjà le 2 juillet 1790, lui demandant de se prononcer. Il lui disait « Soyez l'interprète du ciel, hâtez-vous de vous prononcer ?» Mais la réponse du pape tardait. Et même les deux évêques, chargés par le pape, d'informer le roi, de le conseiller, dont l'un était le malheureux évêque Talleyrand, évêque d'Autun, qui fut un évêque très indigne, hélas. Ces deux évêques trompaient le roi. Ils disaient, mais sire, signez cette loi, à savoir la constitution civile du clergé. Signez cette loi, votre signature ne fait que déclarer la conformité du texte avec la loi qui a été votée à l'Assemblée. Voilà. Et le roi, hélas, signa. Cette constitution civile du clergé qui séparait l'Église française de Rome. C'était un schisme. Mais le roi ne le comprenait pas encore clairement, parce que le pape n'avait pas encore répondu. Alors le roi se répentit bien vite d'avoir signé cette loi. Et il disait plus tard, cette loi froisse mon sentiment religieux, mes opinions religieuses. Je la vois, cette loi, comme le signal de persécution interminable dans mon royaume. De persécution. Il le voyait bien déjà à l'avance, les persécutions qui allaient venir contre la religion. Et alors le roi, dans l'année suivante, en mars 1791, au moment du carême, où il prépare la communion pascale, et dans l'angoisse, est-ce qu'il est digne ? Est-ce que je suis digne, dit-il, de communier parce que j'ai signé cette loi mauvaise ? Est-ce que je suis digne de communier ? Voyez. Et puis même, est-ce que je vais trouver un prêtre pour pouvoir communier ? Moi, je ne veux pas communier des mains d'un prêtre jureur, d'un prêtre qui a juré le serment à la Constitution. Moi, je ne veux pas. Je veux recevoir la communion d'un prêtre fidèle. Voilà. Heureusement, il va recevoir la communion d'un prêtre fidèle. Mais dans l'angoisse de son cœur, alors il se tourne vers le Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est un épisode que l'on ne connaît pas. Le roi, Louis XVI, s'est tourné vers le Sacré-Cœur de Jésus en lui disant, « Vous voyez, mon Dieu, les plaies, toutes les plaies qui déchirent mon cœur et la profondeur de l'abîme dans lequel je suis tombé. » Et pour recourir, pour obtenir le secours du Sacré-Cœur, Louis XVI fait un vœu. On connaît le vœu de Louis XIII, on ne connaît pas le vœu de Louis XVI. Il fait le vœu de révoquer le plus tôt possible toutes les lois, dit-il, qui me seront indiquées, soit par le pape, soit par quatre évêques pris parmi les plus vertueux de mon royaume, comme c'est contraire à la pureté des mœurs ou de la doctrine. Voilà. Et le roi se plaçait lui-même, avec son royaume, sous la protection du Sacré-Cœur. Il s'engage à élever un temple, une église, en l'honneur du Sacré-Cœur, et à instituer une fête solennelle, qui n'existait pas encore, en l'honneur du Sacré-Cœur. Et il dit, « Je promets solennellement d'aller moi-même, en personne, sous les 3 mois, à partir de ma délivrance, car il espérait être délivré, dans l'église Notre-Dame de Paris, et là, entre les mains du célébrant, de l'archevêque, de prononcer un jour de dimanche ou de fête, après l'offertoire de la messe, un acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus, avec promesse de donner à tous mes sujets l'exemple du culte que l'on doit et de la dévotion qui sont dues envers ce cœur adorable. Tel est le vœu de Louis XVI. Hélas, il resta prisonnier, il ne put pas l'accomplir. Mais voyez, ce vœu engage désormais la France. Il faut qu'un gouvernement, un jour ou l'autre, accomplisse ce vœu de Louis XVI. Le maréchal Pétain l'a accompli, mais en privé. En privé. C'était de tristes temps. Voyez. Mais il faudrait maintenant que officiellement le chef d'État, le chef de l'État, consacre la France au Sacré-Cœur en accomplissant la volonté du roi Louis XVI. Le 14 avril suivant, après Pâques, arrivait enfin à Paris la nouvelle que le pape condamnait effectivement la constitution civile du clergé comme schismatique et par conséquent, le roi décida de faire tous les efforts pour abroger cette constitution. Hélas, il n'avait pas le pouvoir à ce moment-là, c'était trop tard. Mais au moins, il opposa toujours son veto, c'est-à-dire non, son non, son veto, à toutes les lois qui persécutaient les bons prêtres, qui les condamnaient au bannissement en Guyane ou bien encore à mort. Le roi condamna cette persécution anti-religieuse. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la mort du roi Louis XVI, Louis XVI est mort pour défendre la religion catholique. C'est une mort profondément religieuse. Nous dirons même que Louis XVI est digne du martyr, de la couronne du martyr. Alors vient ensuite, bien chers fidèles, les tristes événements de 1792-1793, d'abord la condamnation à mort et puis ensuite l'exécution du roi. Et tout d'abord la condamnation à mort du roi. Vous savez que dans l'été 92, c'est la prise d'assaut par la populace révoltée, le pire peuple de Paris, la lie du peuple de Paris, excité par les francs-maçons, c'est la prise d'assaut du palais des Tuileries par le peuple révolté. Et vous savez que la garde suisse a héroïquement défendu le roi, et que sur l'ordre du roi, on a cessé le feu, et qu'à ce moment-là, hélas, tous les Suisses ont été massacrés. Et alors le roi se réfugie, il ne pouvait pas faire autrement, dans l'Assemblée nationale. Autrement dit, il est prisonnier de ses pires ennemis. Voyez, il n'est plus libre. Et bientôt, il est enfermé avec la famille royale dans la tour du Temple à Paris. Avec la famille royale, c'est-à-dire la reine Marie-Antoinette, sa sœur Madame Élisabeth, qui était une sainte personne, qui va mourir elle-même en odeur de sainteté. Et puis avec le petit dauphin, le malheureux Louis XVII, et sa sœur, Madame Royale, qui survivra à la Révolution. Et là, le roi détrôné, eh bien, on exige sa mort. Non seulement on le détrône, on déclare la République, voyez, pour la grande tristesse du roi. Et puis enfin, à la tribune de l'Assemblée, Robespierre se lève, exigeant la mort, la condamnation à mort du roi, par ces paroles que je vous lis. Un roi détrôné dans la République n'est bon qu'à deux usages, ou bien à troubler la tranquillité des gens, ou bien à ébranler la liberté. Or, quel est le parti, dit-il, qu'une scène politique prescrit pour cimenter la République naissante, c'est de graver profondément dans le cœur le mépris de la royauté et de frapper de stupeur les partisans du roi. Comment frapper de stupeur les partisans du roi, sinon en tuant le roi, n'est-ce pas? Comment montrer du mépris envers la royauté, sinon en faisant mourir le roi? Et tout cela pour cimenter, dit-il, Robespierre, pour cimenter la République naissante. Quel malheur, voyez. Et dès lors, la République, toutes ces républiques qui se sont succédées, eh bien, sont frappées, je dirais, de ce péché originel d'avoir été cimentées dans le sang sacré d'un roi sacré à Reims. C'est un sacrilège. Notre République est marquée au fer rouge, je dirais, depuis le début, d'un sacrilège, d'un crime de sacrilège, d'avoir versé le sang d'un roi qui était consacré roi à Reims par le Saint-Crème. Voyez. Et donc, il faudra expier ce crime. Et notre République ne se portera de mal en pis tant qu'elle ne pourra expier ce crime. On peut parler du péché originel de la France, au moins de la République française, qui n'a pas été expié jusqu'à présent. Je n'ai pas entendu parler que le chef de l'État ait regretté la mort du roi, pas du tout. Alors Louis XVI est donc enfermé dans la tour du Temple, il est bientôt séparé de sa famille, et là tout seul il réfléchit, et le jour de Noël, 1792, il va écrire son testament, un très beau texte qui est très mal connu. Je vous lis quelques lignes de ce testament. Au nom de la très sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis, 16e du nom, roi de France, je déclare que je meurs dans l'union de notre sainte mère, l'Église, catholique, apostolique et romaine. Je prie Dieu de recevoir le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique ce fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique. Donc Louis XVI regrette ces lois. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit chasser toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois. On peut penser que c'est une certaine concession à la souveraineté populaire, mais c'est aussi ce qui avait lieu toujours. Le roi régnait selon les lois fondamentales du royaume. Le roi n'était pas un monarque absolu. Il respectait les traditions et les lois fondamentales non écrites du royaume. Donc il ne veut pas nous scandaliser en disant que le roi doit faire le bonheur du peuple en régnant selon les lois. C'était normal. Mais en même temps, et Louis XVI insiste là-dessus, qu'un roi ne peut faire respecter les lois et faire le bien que dans la mesure et autant qu'il a l'autorité nécessaire. Et car autrement, il est lié dans ses opérations et il n'inspire aucun respect. Même il est plus nuisible qu'utile. Si un chef d'État n'a pas l'autorité, voyez, il est plus nuisible qu'utile. Je finis, déclare Louis XVI, en déclarant devant Dieu que je suis prêt à paraître devant lui et que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Signé Louis. Un testament chrétien, digne d'un roi chrétien. Les derniers moments du roi. Le 17 janvier 1793, à la fin du procès, son avocat Malesherbes, un très digne avocat, vient au temple pour apprendre au roi si vous êtes condamné à mort. Voilà la liste de ceux qui ont voté pour vous et contre vous. Vous êtes condamné par 361 voix contre 360, par une voix de majorité. Il faut savoir cela, bien cher fidèle. Et cette voix de majorité, c'était justement la voix du duc d'Orléans, du cousin du roi. Comme c'est triste. Et le roi, parcourant, n'est-ce pas, la liste des malheureux députés qui avaient voté sa mort, disait, dans l'intimité, à son valet de chambre, « Je suis bien affligé de ce que monsieur d'Orléans, mon parent, a voté ma mort. » C'est tout ce qu'il disait. Et alors, bientôt, il fait venir son confesseur pour préparer à mourir, pour se préparer à mourir. Mais où trouver un prêtre et un bon prêtre qui n'a pas juré la fidélité, qui n'a pas prêté le serment schismatique à la constitution civile du clergé? Enfin, il en trouve un, l'abbé Edgeworth, un Irlandais, qui n'était pas français, mais qui vivait en France, et qui avait toujours refusé de prêter le serment à la Constitution. Et cet abbé arrive le soir, le 20 janvier, la veille de la mort, et toute la nuit, ou presque, ils vont parler ensemble pour préparer le roi à la mort. Très tard dans la nuit, il va se confesser, ils vont préparer les choses. Et le lendemain, de très bonne heure, à 5 heures, le roi se lève pour assister pieusement à la messe. Il la passe à genoux, tout entière. Il va communier des mains de l'abbé Edgeworth. Et puis alors, à 9 heures du matin, on entend du bruit au bas de la tour. C'est Santerre, le chef des sans-culottes, armé de bâtons, de tout ce qu'on peut imaginer, un peu comme notre Seigneur aux gens des Oliviers, Judas. Voyez, on pense à cela instinctivement, n'est-ce pas? Voilà que le roi est entraîné par la violence. On le met en voiture, on l'embarque. Il a pu embrasser sa famille hier, la veille, mais le matin, il n'a pas le temps. Et on l'emmène en voiture, tiré par des chevaux, encadré par des gendarmes, à la place de la Révolution, c'est-à-dire actuellement la place de la Concorde, et jadis la place Louis XV. Et là, eh bien, il arrive au pied de l'échafaud. Et une scène pénible a lieu au pied de l'échafaud. Le bourreau dit au roi, « Donnez vos mains, on va vous attacher. » Et le roi répond, « Me lier ?»« Jamais !» Mais l'aumônier, l'abbé Edgeworth, est là, à côté du roi, il l'a accompagné en voiture, et il lui dit ceci, il lui souffle à l'oreille, « Sire, dans ce nouvel outrage, je ne vois qu'un dernier trait de ressemblance de votre majesté avec Dieu qui va être sa récompense. » Se laisser attacher, comme Jésus s'est laissé clouer sur la croix, n'est-ce pas? Alors le roi comprend, il lève les yeux au ciel et dit, « Assurément, il ne faut rien moins que cet exemple pour que je me soumette à pareil affront. » Et se tournant vers le bourreau, il lui dit, « Faites ton office, faites ce que vous voulez, je boirai le calice jusqu'à la lie. » Alors on va lui lier les mains derrière le dos. Et le roi, courageusement, monte, de façon inébranlable, les marches raides de l'échafaud. Et là, arrivé en haut, il échappe pendant quelques instants aux mains de ses bourreaux, s'approche de la foule et s'adresse aux Français qui sont massés sur la place de la Concorde. Il y en avait 100 000 ce jour-là, 100 000 Français, le 21 janvier 1793. « Français, leur dit-il, je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Voyez, comme notre Seigneur qui pardonne à ses bourreaux. Alors que les Juifs appellent sur leur tête et sur la tête de leur fils le sang de notre Seigneur, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Voyez, le roi alors dit, non, que le sang royal que je vais verser ne soit pas pour la malédiction de mon peuple. Hélas, je crains bien que sa prière n'a pas été exaucée encore, car ce sang royal et sacré est un signe jusqu'à présent de malédiction sur cette France qui n'est plus la France, qui n'est plus catholique, qui a apostasié depuis ce temps-là. Et je peux dire que ce régime, ce nouveau régime, est marqué de cette flétrissure, de cette infamie, voyez, d'avoir tué son roi. Le péché, la République, péché originel, le régicide, comme les Juifs ont commis le déicide, les révolutionnaires ont commis le régicide. Quel fut le jugement de l'Église sur la mort du roi? Eh bien, donc, dont le couperet, n'est-ce pas, le couperet de la guillotine, bien sûr, tombe et la tête est présentée au peuple, comme c'était l'habitude à ce moment-là. Quel fut le jugement de l'Église? Eh bien, l'Église tout de suite a condamné cette mort affreuse. Pie VI condamne non seulement l'œuvre de la Révolution, mais son aboutissement, le régicide, la mort du roi. Et il dit ceci, nous condamnons cette liberté de penser et d'agir. Nous condamnons également ce contrat social selon lequel le peuple est souverain. Nous condamnons ce faux principe selon lequel nulle autorité n'est légitime qui n'émane du peuple. Voilà. Donc, le pape condamne les principes mêmes de la Révolution. Donc, il faut le savoir, voyez, les principes de la Révolution française, finalement, les principes mêmes sur lesquels repose le régime actuel républicain, ont été condamnés par le pape. Parce que c'est une autorité qui vient du peuple sans venir de Dieu. Et ça, c'est un faux principe. Saint Paul nous le dit, toute autorité vient de Dieu, quelle qu'elle soit. Et le pape Léon XIII, quelques années plus tard, dira, même en démocratie, même en république, le pouvoir vient de Dieu. Ceux qui dirigent la nation, que ce soit les députés ou un président de la République, ou même le peuple, comme ça se fait dans les petits cantons en Suisse, c'est le peuple directement qui vote, qui dirige l'État. Tout pouvoir vient de Dieu. Vous n'avez pas le droit de dire que le pouvoir est la libre volonté du peuple, c'est faux. Le peuple doit décider, peut-être, quelquefois, selon la volonté de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Alors le pape condamne radicalement cette fausse démocratie, ce pouvoir qui résiderait dans le peuple sans venir de Dieu. C'est condamné. Ensuite, le pape condamne, bien sûr, comme nous avons vu, la constitution civile du clergé, ses lois schismatiques. Et enfin, le pape condamne le procès illégal, dit-il, du roi Louis XVI, fait par une conjuration impie, dit-il, d'abolir la monarchie qui est la plus excellente des régimes. Donc le pape vante le régime monarchique. Il serait bien de se rappeler cela, que la monarchie est un régime supérieur à la République, parce que la monarchie donne le sens de l'autorité. Autrefois, le roi, très chrétien, se disait le lieutenant de Jésus-Christ dans le royaume. Allez voir le président Mitran se déclarer lieutenant de Jésus-Christ en France. Voyez. On voit la contradiction, l'opposition radicale entre la monarchie très chrétienne, qui reconnaissait son pouvoir de Dieu, participation du pouvoir de Jésus-Christ, dans le royaume, dans les affaires temporelles, bien sûr. Et puis, le nouveau régime qui déclare recevoir son pouvoir du peuple, un point c'est tout, qui déclare la souveraineté de la volonté populaire. Et le pape Pie VI condamne l'opinion publique, la tyrannie de l'opinion publique en régime républicain. Comme le pape Pie VI, comme l'Église, ont bien vu les choses, clairement. Ce n'est pas vrai. Notre démocratie n'est pas une vraie démocratie. Nous ne sommes pas libres, bien chers fidèles. Ce qui règne, c'est l'opinion publique. Et qui forge l'opinion publique? Eh bien, les puissants. C'est cela. Et le pape voit cela très bien. N'est-ce pas ? Il dit ceci, « Mettre la puissance dans le peuple, c'est une erreur, car le peuple est inconstant, facile à être trompé, entraîné à tous les excès, et aussi parce qu'il apprécie peu de choses selon la vérité, et qu'il en évalue beaucoup selon l'opinion. » Parole du pape Pie VI. L'opinion, le règne de l'opinion. Nous ne sommes pas libres. Et le pape enfin condamne ce laboratoire d'où est sortie cette constitution sacrilège du clergé. Ce laboratoire, on comprend tout simplement la franc-maçonnerie. N'est-ce pas ? Ce lieu obscur et secret où a été fabriquée la nouvelle constitution. Et le pape conclut en parlant du roi Louis XVI. C'est à la haine de la religion qu'il faut imputer les premières trames de ce complot. Personne ne peut nier que la même cause, donc la haine de la religion, n'ait amené la mort funeste de Louis XVI. Et encore, le pape s'exclame, s'adresse à la France. Il s'adresse à vous, chers Français. « Ah, France, tu demandais toi-même auparavant un roi catholique. » Oui, souvenez-vous, au temps de Henri IV, il était protestant. Et pour régner, il a fallu qu'il devienne catholique. Sinon, il n'aurait pas pu régner. Alors le pape explique ça aux Français. Tu demandais toi-même un roi catholique. Tu disais que les lois fondamentales du royaume ne permettaient pas de reconnaître un roi qui ne fût pas catholique. Et maintenant que tu l'avais, ce roi catholique, c'est précisément parce qu'il était catholique que tu viens de l'immoler. Bien chers fidèles, que pouvons-nous conclure? Tout simplement que Louis XVI est mort martyr. On peut donner ce titre, sans doute il n'est pas encore canonisé, mais il est digne de ce nom de martyr. Il est mort martyr de la foi chrétienne, de la foi catholique. Il est mort martyr du règne social de Jésus-Christ, de cette vérité que l'autorité politique vient de Dieu. Il est mort pour cela. Eh bien, et même dans la bouche des révolutionnaires, dans la bouche d'un Robespierre, la mort du roi, c'est une leçon de chose, une illustration, pour illustrer ce principe de la fausse démocratie, de la volonté du peuple, la tyrannie de la volonté du peuple. Il va falloir mourir le roi, le faire mourir, parce qu'il est le symbole de l'autorité reçue de Dieu. Vous comprenez? C'est cela le sens profond de la mort du roi Louis XVI. Il faut faire mourir ce principe dans les fêtes et donc verser son sang sacré, puisqu'en signe de ce que le roi était le lieutenant du Christ, il devait se faire oindre à Reims, dans la cathédrale, avec le Saint-Crème, et ceci depuis toujours. Le sacrilège est consommé le 21 janvier 1793. C'est un sacrilège. On peut dire avec le pape que le roi très chrétien Louis XVI est mort martyr du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont les paroles du pape? Il dit ceci, c'est les paroles du pape Pie VI. Qui pourra jamais douter que ce monarque n'ait été principalement immolé en règne de la foi et par un esprit de fureur contre les dogmes catholiques? On ne peut pas imaginer plus belle déclaration que Louis XVI est martyr. Il a été immolé par haine de la foi et par haine des dogmes catholiques. Bien chers fidèles, l'expiation alors. Car si ce meurtre est un martyr, il est en même temps un sacrilège. Voyez, si l'Église catholique peut s'enorgueillir d'avoir un saint de plus au ciel, nous pensons qu'il est depuis longtemps au ciel, et un martyr, un roi martyr en France, c'est une grâce. En même temps, la France reste souillée de ce sacrilège. Qui va l'expier? Voyez. Hélas, ce n'est pas encore la veille, nous l'espérons un jour. Si un jour le chef d'État, publiquement, faisait une déclaration expiant ce sacrilège, en même temps consacrant la France au Sacré-Cœur, alors vraiment, nos espoirs pourraient renaître, bien chers fidèles. Et si les évêques eux-mêmes expiaient le péché de ceux qui participèrent à la mort du roi? Évêques français, abjurez votre libéralisme. Évêques français, condamnez ce faux dogme de la souveraineté populaire. Non, c'est le bon Dieu qui règne. Évêques français, proclamez la souveraineté de Dieu et de son Christ. Expiez, évêque français, expiez, chef d'État français, ce crime de vos prédécesseurs. Alors ce sang de Louis XVI cessera d'être une malédiction pour notre pays, mais au contraire, il sera une bénédiction. Il attirera la conversion des cœurs. Il attirera la conversion des institutions, pour ramener ces institutions au Christ, le roi des rois, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.